Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, par le symbole du Sacré-Cœur, notre Seigneur Jésus-Christ nous rappelle en même temps et sa justice et sa miséricorde. Notre Seigneur meurt sur la croix le Vendredi Saint, et une fois mort, il trouve encore le temps, le moyen de nous donner autre chose. On pourrait croire que puisqu'il est mort, tout est fini, il a tout donné, il n'a pas encore tout donné. Et c'est après sa mort, donc, quand le soldat Saint-Longin va ouvrir le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur va nous donner le plus bel exemple de sa miséricorde, à savoir l'ouverture de son Sacré-Cœur. Et il faut bien associer les deux choses. Sacré-Cœur de miséricorde, oui, mais attention, le Sacré-Cœur est ouvert pendant la Passion. Donc il faut remettre tout ça dans l'esprit de notre Église, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ va d'abord avoir son agonie au Jardin des Oliviers, puis la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire, sous les insultes et les coups, la crucifixion, la mort sur la croix, puis l'ouverture du Sacré-Cœur. Donc la Passion représente la justice, l'ouverture du Sacré-Cœur représente la miséricorde. Et je pense qu'un des crimes actuellement, c'est de vouloir séparer les deux. Donc il y a deux dangers à éviter. Premier danger, se rappeler uniquement la miséricorde et oublier la justice. Là, on tombe dans le modernisme, on peut dire dans le libéralisme actuel. Deuxième crime, se rappeler que la justice et oublier la miséricorde. On tombe dans le jansénisme. L'Église a condamné les deux choses, et le jansénisme et le libéralisme. Donc il faut se rappeler la miséricorde qui est jointe à la justice et la justice qui est jointe à la miséricorde. Alors qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui est plus grave? De penser que la justice oublie la miséricorde ou de penser que la miséricorde oublie la justice? Difficile de répondre à cette question. Et notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il était bon et compatissant. Compatissant, c'est-à-dire qu'il souffre pour nous. C'est la signification du mot compassion. Notre Seigneur Jésus-Christ souffre pour nous parce que nous ne voulons pas souffrir pour nos péchés. Donc lui, innocent, bien qu'il n'ait jamais péché, va prendre sur lui les conséquences de nos péchés, le poids de nos péchés, et souffrir pour nous. C'est la raison pour laquelle les pères de l'Église, surtout saint Augustin, font remarquer une chose très belle. Ils font remarquer que l'évangile de saint Jean, quand il parle du percement par la lance, utilise le mot « ouverture ». Le Sacré-Cœur a été ouvert, il n'a pas été percé. On perce un mur, comme un voleur qui s'introduit dans une maison. Mais on ouvre une porte pour bien montrer que le Sacré-Cœur est une porte grande ouverte pour que tout le monde, tous les catholiques et même les non-catholiques puissent venir chercher refuge et les grâces nécessaires pour leur conversion, pour leur persévérance dans la foi dans ce Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur est donc un lieu de refuge. Cette notion de lieu de refuge a complètement disparu aujourd'hui. Mais au Moyen-Âge, ça avait une importance énorme. Il y avait partout en France, en Europe, il y avait des lieux de refuge qui étaient des lieux sacrés. Et n'importe qui allait se mettre dans ce lieu de refuge, même poursuivi par la police, même poursuivi par la maréchaussée pour des fautes très graves, des fautes contre des fautes d'assassinat, des bandits de grand chemin, dès qu'ils étaient dans le lieu de refuge, c'était intouchable. Et la police était obligée d'attendre à la porte. Et comme ces lieux de refuge étaient très souvent connectés à des abbayes, lesquelles étaient aussi des lieux de refuge, et souvent, les bandits restaient dans ces lieux-là pendant toute leur vie, tout simplement parce qu'ils savaient très bien que dès qu'ils quitteraient le lieu de refuge, ils seraient pris et pendus ou envoyés aux galères. Il y a des conversions magnifiques comme ça. Des bandits de grand chemin qui, contraints et forcés, sont restés dans ce lieu de refuge et finalement sont devenus moines et ont offert leur vie en réparation pour leurs péchés. Le Sacré-Cœur de notre Seigneur, mes bien chers frères, c'est un lieu de refuge comme cela. C'est donc là qu'il faut aller se mettre, se placer pour que nous obtenions du bon Dieu toutes les grâces nécessaires. Il faut aller chercher là où elles sont. Notre Seigneur l'a dit expressément, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et la porte sera ouverte. Quelle porte s'agit-il? La porte de la miséricorde. Et où est la porte de la miséricorde? La porte de la miséricorde, mes bien chers frères, eh bien c'est justement là, c'est la porte de la porte du Sacré-Cœur. Donc il faut bien comprendre ces deux choses et unir ces deux choses, ne jamais oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a toujours la porte de son Sacré-Cœur grande ouverte pour ne jamais tomber dans le découragement. Le découragement est impossible pour un catholique parce que la porte du Sacré-Cœur est toujours ouverte, jamais fermée. Nuit et jour, comme la porte du tabernacle. La porte du tabernacle représente la porte du Sacré-Cœur. Et c'est d'ailleurs le même Dieu qui se présente à nous sur la croix avec son Sacré-Cœur ouvert, et le même Dieu qui est là, présent au tabernacle de l'autel, avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est exactement la même miséricorde. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut parler sur la miséricorde. Et ça, en parler toujours. Parler sur la miséricorde infinie du bon Dieu, justement à cause de cela. Et c'est pas pour rien, vous verrez qu'à la fin de la messe, le prêtre, au lieu de chanter, de dire l'évangile de Saint Jean, le début de l'évangile de Saint Jean, comme à chaque messe, puisque nous faisons la solennité du Sacré-Cœur aujourd'hui, il va lire l'évangile du dimanche dans l'octave de du Sacré-Cœur. Et quel est cet évangile? Eh bien, pour bien montrer que c'est justement la fête de la miséricorde, eh bien, la Sainte Église a choisi comme évangile l'évangile du bon pasteur. Un pasteur, donc, qui a une centaine de brebis, et il se rend compte qu'il y en a une qui manque. Le soir, tous les soirs, il fait l'appel des brebis pour vérifier que tout le monde est là. Il prend donc son carnet, il vérifie que toutes les brebis sont là. Il les compte. Et il se rend compte qu'il y a une petite brebis qui manque ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se renseigne pour savoir quelle est la brebis qui manque. Il se rend compte que la brebis qui manque, c'est la brebis galeuse. La brebis révolutionnaire qui est toujours en train de râler, qui n'arrêtait pas de critiquer le maître du troupeau, le pasteur, toujours en train de critiquer, toujours en train de comploter plus ou moins contre l'autorité légitime du troupeau. Et elle est perdue. Alors, comment dire les autres brebis? Les autres brebis vont dire au maître: Seigneur, c'est le casse-pied qui est parti. C'est la brebis révolutionnaire qui est partie. Bon débarras, on a enfin la paix. Il vaut mieux avoir 99 bonnes brebis plutôt qu'une centaine avec en plus quelqu'un qui met la pagaille dans le troupeau à longueur de journée. Est-ce que vous croyez que notre Seigneur va marcher dans cette combine? Pas du tout. Le berger enferme toutes les 99 brebis qui sont là et va rechercher la brebis perdue. Il va passer toute la nuit à la chercher. Il va la retrouver. Et qu'est-ce qu'il fait? Il la met sur ses épaules, il la ramène. Il la ramène, évidemment, une brebis complètement transformée avec la grâce du bon Dieu et qui va depuis se comporter correctement dans le troupeau. Donc il faut méditer, vous voyez, toutes ces paraboles magnifiques de la miséricorde et du bon Dieu qui se manifestent justement dans le Sacré-Cœur. Et n'oubliez pas, encore une fois, qu'à chaque fois que vous agenouillez, que vous faites vos génuflexions devant le Saint-Sacrement, vous devez penser au Sacré-Cœur. C'est le même Sacré-Cœur qui est dans la Sainte Eucharistie. C'est la même miséricorde infinie divine que vous recevez à chaque fois que vous communiez en état de grâce. Voilà, mes chers frères, ce qu'il faut comprendre. Il y a d'autres exemples qu'on peut utiliser. Peut-être un des exemples, à mon avis, les plus forts que nous pouvons utiliser, c'est l'exemple comparatif de Judas et de Saint-Pierre. On a compris ça, on comprend beaucoup de choses. Judas et Saint-Pierre ont tous les deux apostasié publiquement. Judas va vendre son maître pour de l'argent, pour de l'or, et Saint-Pierre va trois fois de suite nier son appartenance aux disciples de notre Seigneur. Trois fois, il va dire publiquement: je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Apostasie publique de Saint-Pierre, apostasie publique aussi de Judas. Mais l'Église nous enseigne que Judas est en enfer, alors que Saint-Pierre est au ciel. Et notre Seigneur, à propos de Judas, a eu cette phrase terrible: il aurait mieux fallu pour cet homme qui ne fût point né. Est-ce qu'il n'était pas possible pour notre Seigneur Jésus-Christ de pardonner le péché de Judas? Bien sûr. Notre Seigneur Jésus-Christ était prêt à pardonner le péché de Judas exactement comme il a pardonné le péché de Saint-Pierre. C'est la même chose. Parce que Saint-Pierre a quitté la maison de l'ancien grand prêtre Anna pour aller à la maison de Caïphe. Donc en sortant, il a vu Saint-Pierre qui venait le trahir trois fois, qui était auprès du feu dans la cour du prétoire avec Saint-Jean. Il a vu déjà les larmes sur les joues de Saint-Pierre qui regrettait déjà son péché. Et en passant, certainement que notre Seigneur a dû donner l'absolution sacerdotale puisqu'il est grand prêtre. Il lui a pardonné tout de suite. Et à cette phrase dans l'évangile, Pierre sortit et pleura amèrement. Et toute sa vie, il pleura. À tel point, la tradition nous dit que de chaque côté du visage de Saint-Pierre, il y avait comme deux canaux gravés en quelque sorte en profondeur sur ses joues, tellement il avait pleuré son péché. Et même plus tard, des années plus tard, quand il était à Rome, exerçant le souverain pontificat, comme chef de l'Église, à chaque fois, nous dit la tradition, à chaque fois que Saint-Pierre entendait un coq chanter, il pleurait parce qu'il se rappelait la trahison qu'il avait proférée contre notre Seigneur. Et même en 67, quand il fut condamné à mort, il fut condamné à être crucifié. Eh bien, au moment d'être crucifié, il a dit « Je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon maître ». Il a demandé d'être crucifié la tête en bas. Voilà, la croix inversée représente la croix de Saint-Pierre. Et Judas a pu faire la même chose. Si Judas, après avoir même apostasié publiquement, même trahi son maître, si Judas était venu se jeter aux pieds de notre Seigneur crucifié, notre Seigneur lui aurait tout pardonné. Judas serait un saint et serait au ciel. Il n'aurait pas simplement Saint-Pierre, il y aurait aussi un saint Judas. Ce qu'il faut comprendre, c'est le crime spécial de Judas. Judas a commis un péché contre le Saint-Esprit, par lequel il est tombé dans le désespoir de son salut. C'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Saint Paul nous enseigne que quand on est dans un de ces péchés du Saint-Esprit, on ne peut pas être pardonné parce qu'on est dans une situation dans laquelle on ferme en quelque sorte la porte, étroitement la porte de notre cœur, de notre âme, et la grâce du bon Dieu ne peut pas passer parce que notre Seigneur ne veut pas rentrer dans notre cœur si nous ne voulons pas lui ouvrir la porte. Et si Judas avait demandé pardon au bon Dieu, le bon Dieu lui aurait pardonné immédiatement. Alors quel est le crime de Judas? Il faut bien comprendre. Le crime de Judas, c'est d'avoir voulu limiter la miséricorde du bon Dieu justement. Judas a dit en quelque sorte, mon péché est trop grave, trop grand pour être pardonnable. Même Dieu ne peut pas le pardonner, là je l'ai trop offensé. Ça c'est le crime des crimes. Le crime de limiter la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. On n'a jamais le droit de faire cela. Même le pire des bandits, même celui qui a passé toute sa vie à offenser notre Seigneur Jésus-Christ, qui avec la grâce du bon Dieu, une grâce actuelle, demande pardon de ses péchés avant de mourir, le bon Dieu pardonne évidemment. Regardez par exemple le bon larron. Regardez le bon larron qui dit simplement au bon Dieu, mu par une grâce, attention, c'est une grâce du bon Dieu. Mu par une grâce actuelle, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. Et notre Seigneur de Jésus-Christ de lui dire, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Notre Seigneur lui-même pardonne tout. Il aurait pu faire la même chose, dire la même chose à Judas. Et Judas serait un saint. Donc ne jamais nous décourager. Péchés contre l'espérance sont de loin les péchés les plus dangereux. Ce ne sont pas les plus graves. Péchés contre la charité sont plus graves. Et les péchés contre l'espérance sont les plus dangereux parce qu'ils ferment la porte de la miséricorde. Ils nous font perdre la vertu d'espérance. Perdant la vertu d'espérance, on n'espère plus rentrer dans le Sacré-Cœur. C'est comme un bandit, si vous voulez, qui est poursuivi par la marée chaussée, qui veut rentrer dans l'église de refuge, il sait qu'il sera à l'abri là-dedans, et qui s'arrête à la porte en se disant « Je suis un trop grand pécheur, je ne peux pas rentrer là-dedans. » Alors évidemment, la marée chaussée peut sauter sur lui et l'envoyer au gibet, l'envoyer aux galères. N'oublions jamais, mes chers frères, jamais la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ est plein de miséricorde et je dirais, on peut même aller plus loin que ça en disant, imaginez deux pécheurs devant notre Seigneur Jésus-Christ, un petit pécheur et un grand pécheur. Et le bon Dieu aime plus le grand pécheur que le petit pécheur. Pourquoi? Parce que le plus grand pécheur a plus besoin de la miséricorde que le petit pécheur. Et donc Dieu mesure en quelque sorte son amour par le degré de miséricorde qu'il doit exercer pour chacun d'entre nous. Si certaines personnes ont besoin de plus de miséricorde parce qu'ils ont plus péché et plus offensé le bon Dieu lui leur donne plus de grâce. Cependant, attention, il y a un mystère là-dedans. Il y a un mystère dans le sens que le bon Dieu ne nous oblige pas à accepter la grâce de conversion. On le voit très bien avec les deux larrons. Un larron se convertit, mais pas l'autre. Gestas, le mauvais larron, ne se convertit pas. Refuse la conversion alors qu'il était tout proche de notre Seigneur. Et si Gestas, le mauvais larron, avait dit à notre Seigneur Jésus-Christ la même phrase prononcée par l'autre larron, Saint Dismas, lui aussi serait saint. Et on aurait un Saint Gestas avec le Saint Dismas, le bon larron. Oui, bien, chers frères, ce qu'il faut impérativement comprendre. Notre point qui me semble très important, c'est de comprendre, et ça c'est très difficile pour nous à comprendre, c'est l'enseignement des pères. Que Dieu est plus grand quand il pardonne que quand il châtie. C'est une façon de parler, bien sûr, Dieu est toujours grand parce qu'il est Dieu. Mais Dieu exerce davantage, je dirais, son amour pour nous quand il pardonne et quand il châtie. Et par nature, je dirais, nature divine, Dieu est plus prompt à pardonner qu'à punir. Certes, faire attention à ne pas détruire, bien sûr, la justice. La miséricorde ne détruit pas la justice. Les deux sont si vous voulez, comme les deux mains d'un même corps. Il faut garder les deux mains ensemble. Ne jamais, jamais oublier ça, que notre Seigneur Jésus-Christ exerce davantage encore sa divinité, en quelque sorte, lorsqu'il pardonne que quand il punit. À tel point que Dieu est capable de faire une chose que nous ne pouvons pas faire. C'est pratiquement impossible pour un être humain de faire ça. Après une grave offense qui lui a été faite, non seulement de pardonner l'offense, mais d'oublier l'offense. Presque impossible. Peut-être les saints, grands saints ont réussi à le faire. En tout cas, pas nous. Parce qu'on nous a gravement offensé, on peut pardonner l'offense. Une maman qui a gravement été offensée par son fils peut pardonner l'offense si elle voit que son fils change et se convertit avec la grâce du bon Dieu. Cependant, elle n'oubliera pas l'offense. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme cela. Notre Seigneur Jésus-Christ, il pardonne une fois qu'il a pardonné les péchés, il oublie les péchés. Nous ne sommes pas des protestants, mon bien cher frère. Jamais oublier ça. Pour cela que les protestants ont cet esprit froid, cet esprit de désespoir constant, parce que justement ils croient que les péchés ne sont pas pardonnés par notre Seigneur, mais sont couverts par son sang. Ils sont couverts par le sang, les péchés sont toujours là, mais ils sont recouverts par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui les cache avec son sang. Ce n'est pas ça du tout. Dans l'Église catholique, nous devons croire avec fermeté, mes bien chers frères, que par le sacrement de pénitence, par la charité de notre Seigneur Jésus-Christ s'exerce, eh bien, les péchés ne sont pas simplement couverts par le sang de notre Seigneur, ils sont ôtés, définitivement ôtés. Ils sautent complètement. Et non seulement ils sautent complètement, non seulement ils disparaissent, mais dans certains cas très particuliers, lorsque le degré de contrition est extrêmement fort, le bon Dieu non seulement pardonne les péchés, oublie les péchés, mais détruit en même temps toutes les peines temporelles liées au péché, à savoir les peines du purgatoire. Et cela doit nous donner, mes bien chers frères, une confiance en notre Seigneur Jésus-Christ énorme. Telle a été la confiance du bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le bon Dieu ne lui a pas dit, bon, tu vas passer d'abord 3 ou 4 siècles au purgatoire, on verra après. Non, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. La même chose avec Saint-Pierre, le bon Dieu ne lui a pas dit, bon, tu vas passer un temps au purgatoire à cause de ça. Non, il pardonne tout de suite, et quand il pardonne, il oublie. Demandons, mes bien chers frères, toutes ces grâces. On peut donner des tas d'exemples comme ça. On trouve des exemples sur la miséricorde infinie du bon Dieu pour nous absolument partout. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Encore une grosse pécheresse qui avait l'âge, qui avait gravement offensé le bon Dieu pendant de longues années. Elle est convertie du jour au lendemain, littéralement, par une grâce extraordinaire qu'elle a reçue du bon Dieu en écoutant un sermon de notre Seigneur, tout simplement. Et elle se convertit, et elle veut immédiatement aller demander pardon au bon Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'ose pas aller directement au bon Dieu, parce qu'elle se sait trop pécheresse. Elle veut aller voir sa mère. Elle voit la très Sainte Vierge Marie. Et elle dit à la très Sainte Vierge Marie, je suis une grande pécheresse, je veux changer de vie, qu'est-ce que je dois faire? La très Sainte Vierge Marie a dû lui dire qu'elle n'avait pas le pouvoir de pardonner les péchés, mais elle a le pouvoir d'envoyer son fils. Donc, la Sainte Vierge Marie dit à Sainte Marie-Madeleine, allez le trouver. Je vais vous dire où il est maintenant. Il est dans la maison de Simon le pharisien. Il a invité un repas là-bas. Allez-y, et vous allez vous mettre à ses pieds. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ne vous inquiétez pas, vous mettez à ses pieds, il fera tout le reste. Et Sainte Marie-Madeleine court. Elle ne marche pas, elle court pour aller à ce lieu. Elle rentre directement dans la place, dans l'endroit, la salle à manger, dans laquelle les hommes mangeaient avec notre Seigneur à la table d'honneur. Et en scandalisant tout le monde, parce que là-bas c'était la coutume pour les hommes et les femmes de manger dans deux salles à manger différentes, elle se précipite, elle se jette aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que va faire notre Seigneur? Est-ce que vous croyez que notre Seigneur va demander une explication détaillée de tous les péchés? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il voit les larmes de Sainte Marie-Madeleine, il comprend que ces larmes sont des véritables larmes, et il lui dit, ah, va et ne pêche plus, vos péchés sont pardonnés. N'oublions pas la deuxième partie. Va, vos péchés sont pardonnés. Allez, vos péchés sont pardonnés. Ne péchez plus. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne. Notre Seigneur Jésus-Christ oublie. Mais il exige un changement de vie. Il exige un changement de vie, que nous, ayant été pardonnés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous ayons un cœur nouveau, un cœur transformé. Quand il sera élevé de terre, il attirera tout à lui. Voilà ce qu'il nous a promis. Et encore d'autres exemples comme cela. Un exemple magnifique que vous connaissez bien, c'est l'évangile aussi de l'enfant prodigue. C'est exactement la même histoire. On retrouve la miséricorde du bon Dieu. Un père de famille qui a deux enfants, un des deux enfants va tout promener et va se perdre dans le monde moderne. Alors il se perd, il vit avec le démon, il abandonne son âme, il laisse le démon à l'enfer, toutes les forces de l'enfer rentrer dans son âme. Qu'est-ce que fait le père de famille pendant ce temps-là? Est-ce qu'il se dit, tant pis, il est perdu, mais j'ai encore un fils, je vais m'occuper de celui qui me reste? Pas du tout. Le père prie, le père fait pénitence pour obtenir le retour de son fils. Et le bon Dieu donne cette grâce au fils prodigue qui va revenir de ses péchés, de ses errements, de ses égarements, va se précipiter aux pieds de son père, va s'agenouiller devant son père et lui dire « Père, pardonne-moi parce que j'ai péché contre le ciel et contre vous. Obtenez-moi, acceptez-moi de nouveau à la maison comme le dernier de vos serviteurs. » Et le père va faire une grande fête. Il tue le veau gras, il rend la notre famille à l'enfant prodigue, il lui donne la robe de fête, il organise une grande fête parce que son fils était perdu et que son fils est retrouvé. C'est ça la miséricorde du bon Dieu, mon bien cher frère. Ne jamais, jamais oublier la miséricorde du bon Dieu. Le crime des crimes, c'est détruire la miséricorde. C'est pour cela qu'on appelle le jansénisme qui détruit la miséricorde, justement, l'hérésie de glace. L'hérésie de glace qui, en quelque sorte, ferme complètement la porte de la miséricorde du bon Dieu. Où est cette porte de miséricorde? Rappelez-vous qu'elles sont dans deux endroits différents. La première porte de miséricorde, c'est le Sacré-Cœur, la fête d'aujourd'hui. Deuxième porte de miséricorde, la porte du tabernacle. Donc, ayez aimé, mes bien chers frères, aimez venir vous prosterner devant le tabernacle de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment là, dans son tabernacle, avec son corps, avec son âme, avec sa divinité. N'oublions jamais cette miséricorde. Et n'oublions pas une dernière chose, et je vais terminer par cela, que la personne qui nous permet d'accéder à la miséricorde, c'est notre Sainte Vierge Marie. Sainte Marie-Madeleine a obtenu le pardon de ses péchés en allant d'abord voir Notre-Dame. C'est la même chose pour nous. Il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur de Judas en disant « Mes péchés sont trop graves, j'ai perdu la foi, mes péchés sont trop, beaucoup trop graves, jamais le bon Dieu me pardonnera, le bon Dieu n'est pas assez puissant pour me pardonner. » Quelle bêtise de dire des choses pareilles. Non, le bon Dieu est parfaitement capable de pardonner à tous les péchés, quel que soit le degré de péché que nous ayons commis, à condition qu'avec sa grâce, grâce qui ne refuse jamais à qui la lui demande, elle lui demande avec humilité, avec sa grâce, tout est possible. Donc passez par la très sainte Vierge Marie, si vous avez du mal à vous confesser, si vous avez du mal à regretter vos péchés, à changer de vie, passez par Notre-Dame, passez par la très sainte Vierge Marie. Elle est dans le sanctuaire aussi, ici. Et demandez à la très sainte Vierge Marie de vous aider, de vous donner toutes les grâces dont vous avez besoin pour que vous puissiez retrouver la vertu de charité. Sacré-Cœur, c'est la charité. La miséricorde nettoie le cœur. Et à ce moment-là, la charité du bon Dieu enveloppe ce cœur, s'introduit dans le cœur, explose littéralement dans le cœur. Et le cœur qui était une caverne de brigands devient un bout de paradis. Voilà, bien chers frères, tout ce qu'il faut demander, ce que nous demanderons pour nous, pour les membres de nos familles, pour tous ceux que nous connaissons, pour lesquels nous devons prier, afin que la miséricorde du bon Dieu puisse s'exercer sur tous les hommes, que les hommes puissent retrouver notre Seigneur Jésus-Christ, en qui seuls nous pouvons être sauvés, parce qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.